Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 27 septembre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Le dilemme du report des élections au Mali. Le Premier ministre Choguel Maïga dit que son gouvernement a le souci d'éviter toute contestation à l'issue des prochains scrutins. Vous l'entendrez dans ce journal. Le top départ pour la campagne électorale en Afrique du Sud. Les municipales auront lieu entre le 27 octobre et le 1er novembre. Afghanistan, la Cour pénale internationale va axer son enquête sur les talibans et l'État islamique, selon son procureur Karim Khan. En Allemagne, deux camps rivaux revendiquent de former le futur gouvernement après les élections de dimanche. L'on s'attend à une longue période de négociations pour connaître le successeur d'Angela Merkel à la chancellerie. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le Mali ne refera pas les erreurs du passé, assure le Premier ministre Choguel Kokala Maïga dans une interview à la VOA accordée à Daily Dico. M. Maïga a assuré que les élections n'auront lieu dans son pays qu'après des concertations nationales.
En faisant croire qu'on peut faire les élections sans changer les conditions qui ont conduit au soulèvement, je pense que c'est une illusion. C'est pour nous conduire à la faute. Nous ne pouvons pas l'accepter. Vous savez, ce gouvernement est issu d'un soulèvement populaire. Il faut en tenir compte. Ce soulèvement est parti des mauvais résultats des élections contestées. Et donc, nous devons tout faire pour minimiser les risques de contestation des élections. C'est ce que les partis de l'Est majorité ne veulent pas. Ils veulent qu'on nous conduise vers les élections avec les mêmes conditions, tomber dans les mêmes erreurs. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous ne pouvons pas choisir cette voie parce que le peuple ne l'acceptera pas.
Le chef du gouvernement malien qui s'est exprimé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU au micro de Dili Diko. Nous retrouverons Choguel Kokala Maïga dans la partie magazine de cette édition sur d'autres sujets qui font l'actualité au Mali. Reprise aujourd'hui du dialogue politique entre les partis de l'opposition et de la majorité au Burkina Faso, consacré à la situation sécuritaire dans le pays, en proie à des attaques djihadistes. Lancé le 17 juin par le président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore, ce dialogue réunissant une quarantaine de représentants des membres des partis et formations politiques avait été suspendu 3 jours plus tard lorsque l'opposition a claqué la porte. Outre la situation sécuritaire, le dialogue politique qui s'achèvera entre mardi et mercredi abordera également la tenue des élections locales prévues en mai 2022 et la réconciliation nationale, a indiqué le ministre de l'administration territoriale, Clément Sawadogo. Nigeria, 34 civils ont été tués dimanche soir par des assaillants armés dans l'attaque d'un village de l'État de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria en proie aux violences de groupes criminels, ont indiqué lundi les autorités locales. L'attaque du village de Madame dans le district de Kora a également fait 7 blessés, d'après le responsable de la sécurité de Kaduna, Samuel Arouane, dans un communiqué. Depuis des années, des gangs criminels appelés localement bandits pillent les villages, volent le bétail et pratiquent des enlèvements contre rançon. Toujours au Nigeria, des hommes armés qui avaient enlevé dans le nord-ouest plus d'une centaine d'élèves dans une école chrétienne en ont libéré 10 d'entre eux, a annoncé dimanche le représentant des parents d'élèves. Depuis le rap de 121 élèves le 5 juillet au pensionnat du lycée Baptiste Bethel Secondary School à la périphérie de la ville de Kaduna, 100 parmi eux avaient été libérés ou avaient réussi à s'échapper, tandis que 21 restaient encore aux mains de leurs ravisseurs. Lancement en Afrique du Sud de la campagne des municipales, le parti historique ANC inaugure ce soir à Pretoria une plateforme pour résister à plusieurs partis d'opposition qui dénoncent sa corruption et son incapacité à résoudre la pauvreté et les inégalités. Claire Morin-Gibou.
Patron de l'ANC, le président Cyril Ramaphosa n'a pas attendu le lancement officiel pour faire campagne dans les townships. Hier, il a parcouru en délégation Tembisa et Soweto en vert et jaune, couleur du parti de Mandela. Cyril, comme l'appellent les Sud-Africains, a présenté une 20aine de jeunes candidats pour signaler du renouveau au sein de l'ANC. Le président a promis que 25% des candidats auraient moins de 35 ans lors du scrutin du 1er novembre. Beaucoup d'électeurs se disent écœurés par la corruption et les défaillances de municipalités qui manquent de tout, à commencer par l'eau et l'électricité. Plusieurs partis, dont les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, pointent du doigt les manquements de l'ANC, l'avidité de ses cadres et la corruption omniprésente. Aux dernières municipales de 2016, l'ANC avait enregistré son pire revers électoral depuis son arrivée au pouvoir en 1994 à la fin de l'apartheid, avec moins de 54% au niveau national et la perte de sa majorité absolue dans 5 des 6 plus grandes villes du pays, dont Johannesburg et Pretoria.
Toujours en Afrique du Sud, une ex-policière accusée d'avoir orchestré le meurtre de 5 membres de sa famille et de son amoureux pour toucher des assurances-vie. Le procès de Nomia Ndlovu, glaçant feuilleton télévisé, fascine les Sud-Africains depuis 2 semaines. Selon l'accusation, elle aurait engrangé quelque 80 000 euros grâce à son entreprise meurtrière. Deux anciens premiers ministres du défunt ex-président algérien, Abdelaziz Bouteflika Ahmed Ouaya et Abdelmalek Sélal, déjà emprisonnés, ont été condamnés aujourd'hui à de nouvelles peines de prison pour des faits de corruption, poursuivis avec d'autres co-prévenus, notamment pour blanchiment d'argent, dilapidation de fonds, abus de fonction et conclusion de contrats en violation de la réglementation des marchés publics. Messieurs Ouaya et Sélal ont été respectivement condamnés à 6 et 5 ans de prison ferme.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Allemagne entame une période d'incertitude après les élections législatives serrées d'hier. Selon les résultats provisoires annoncés aujourd'hui, le centre-gauche du SPD avec son chef de file, Olaf Scholz, a remporté d'une courte tête ce scrutin qui marque la fin de l'ère Angela Merkel avec 25,7% des suffrages. Le point avec Jacques Aristide.
Les conservateurs de la CDU, parti de la chancelière, emmené par Armin Laschet, recueillent 24,1% des voix, le plus mauvais résultat de leur histoire, tandis que les Verts arrivent en troisième position avec 14,8%, suivi par le parti libéral FDP avec 11,5%. Jamais les conservateurs n'étaient tombés sous le seuil de 30%. Il s'agit d'un cuisant revers pour le camp d'Angela Merkel, au moment où la chancelière doit prendre sa retraite politique. Problème, les deux camps revendiquent de former le futur gouvernement et entendent, chacun de leur côté, tenter de trouver une majorité au Bundestag. Olaf Scholz, leader du SPD, également ministre des Finances et vice-chancelier sortant, a tenu à rassurer ses partenaires internationaux. Vous devriez savoir que l'Allemagne a toujours eu des coalitions et a toujours été stable, dit-il. Quant à Armin Laschet, de la CDU et candidat à la chancellerie, il admet que son parti a besoin de renouveau. Il se dit toutefois prêt à entamer des négociations avec les libéraux du FDP et les Verts pour tenter de former le prochain gouvernement. Une coalition avant Noël, c'est l'objectif fixé par les partis politiques allemands pour mettre sur pied un exécutif.
Des affrontements au Yémen ont fait 67 morts au cours des 24 dernières heures parmi les rebelles houthis et les soldats pro-gouvernement dans la bataille pour Marib, dernier bastion loyaliste dans le nord du pays en guerre, selon des sources militaires et médicales. La bataille de Marib a accentué le conflit au Yémen, où sévit le pire désastre humanitaire au monde, selon l'ONU, qui met en garde contre un risque de famine à grande échelle. Les organisations internationales estiment que la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés internes. La Cour pénale internationale va axer son enquête sur les talibans et le groupe État islamique en Afghanistan. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le nouveau procureur de la CPI, qui écarte pour l'instant l'examen de crimes présumés commis par des soldats américains. Le point avec Abdou Ramandia.
Le Britannique Karim Khan a indiqué qu'il ne donnait plus la priorité aux crimes dont ont soupçonné les forces américaines qui se sont retirées du pays, car il ne pouvait plus s'attendre à des enquêtes locales authentiques et efficaces par les talibans, raison pour laquelle il a demandé aux magistrats de la Cour d'axer l'enquête sur les talibans et le groupe État islamique en Afghanistan. L'évolution récente de la situation politique en Afghanistan et le changement de régime qu'a connu le pays ont eu de profondes répercussions, a déclaré M. Khan dans un communiqué. Le procureur de la CPI a spécifiquement mentionné l'attaque meurtrière du 26 août à l'aéroport de Kaboul, revendiquée par le groupe État islamique en Afghanistan, au cours de laquelle 13 militaires américains et plus de 100 civils afghans ont été tués. L'ouverture d'une enquête de la CPI en Afghanistan, notamment sur des crimes présumés commis par des soldats américains, avait conduit l'administration de l'ancien président Donald Trump à imposer des sanctions au prédécesseur de M. Khan, Fatou Bensouda.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lindon.
La Côte d'Ivoire envisage d'atteindre une croissance économique moyenne de 7,65% au cours de la période 2021-2025. Selon un communiqué des autorités ivoiriennes relayé par l'agence Ecofin, la réalisation de cet objectif en hausse par rapport aux 5,9% sur la période 2016-2020 s'inscrira dans le cadre du nouveau plan de développement élaboré pour la même période et en cours d'adoption. Dans le cadre de ce plan, la Côte d'Ivoire entend faire passer ses investissements à 27,1% du PIB en 2025. Le Togo a enregistré 19 milliards de francs CFA de recettes touristiques en 2020 contre 53 milliards de francs CFA en 2019, soit une baisse de 64%. Ces données, rapportées par Financial Afrique, ont été communiquées hier dimanche par le ministre de tutelle à l'occasion de la 42e édition de la Journée mondiale du tourisme. Selon le ministre, les arrivées de touristes sont estimées à plus de 481 000 en 2020 contre un peu plus de 946 000 en 2019, soit une baisse de moitié. Le Royaume-Uni fait face à des pénuries d'essence et selon la presse locale, le gouvernement envisage de faire appel à l'armée pour livrer du carburant. Ces derniers jours, et malgré des appels du gouvernement à ne pas paniquer, les stations-service ont été prises d'assaut en raison de ruptures de stock qui touchent aussi les rayons de produits agroalimentaires.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Le Nigeria est champion d'Afrique de l'afro-basket féminin qui s'est déroulé à Yaoundé au Cameroun. Déjà championne d'Afrique en 2017 et 2019, les Tigresses font la passe de 3 en s'imposant non sans peine en finale 70-59 devant les Maliennes peu inspirées. Le Cameroun complète le podium après sa victoire 53-49 en match de classement devant le Sénégal. Football avec les matchs allés du deuxième tour des qualifications pour la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans Costa Rica 2022, Zone Afrique à Porto-Novo au Bénin, au stade Charles de Gaulle, les Béninoises ont courbé les Chines devant les Lions du Maroc 2-1. Mais le sélectionneur garde espoir.
Les Marocaines ont beaucoup plus d'expérience. Elles jouent ensemble depuis beaucoup plus longtemps. Nous, on a formé l'équipe il y a quoi ? 2 mois. Donc déjà arriver à tenir tête face aux Marocaines, ça veut dire qu'il y a de l'espoir.
Ouzerou Abdoulaye, sélectionneur de l'équipe féminine béninoise des moins de 20 ans. Dans les autres matchs, les Nigérianes sont presque qualifiées pour le tour suivant. Après leur large succès 7-0, contre la Centrafrique, tout comme l'Ouganda qui s'est imposé face au Kenya 7-2. Autre victoire à l'extérieur, celle du Cameroun 4-0 en République démocratique du Congo. Même score en faveur de l'Éthiopie au Rwanda. Le Burkina Faso et la Sierra Leone ont eu raison respectivement 1-0 de la Gambie et de la Guinée. La Zambie a assuré à domicile 6-0 devant le Malawi. L'Angola s'est offert le Botswana 4-1 et le Burundi 3-0 face à la Namibie. Les matchs retour auront lieu dans 2 semaines. Un point sur les Africains qui ont brillé dans les championnats européens ce week-end. L'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool a marqué son 5e but en championnat lors du match nul 3-3 contre le promu Brentford. Toujours en Angleterre, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors de la victoire d'Arsenal 3-1 contre Tottenham. L'ailier sénégalais de Watford, Ismaël Assar, a permis à son club d'arracher le nul 1-1 contre Newcastle. En France, un autre sénégalais a brillé, Idrissa Ganagé, du Paris Saint-Germain a sorti une frappe victorieuse de 20 mètres face à Montpellier, battu 2-0. Le milieu de terrain sénégalais a marqué 3 fois en 5 matchs de Ligue 1 cette saison. De son côté, le Mozambicain Edson Mexer a égalisé tardivement pour Bordeaux lors d'un match nul 1-1 à domicile contre Rennes. En Italie, le Nigérian Victor Osimhen poursuit sa montée fulgurante avec Naples. Il a ouvert le score au début de la victoire 2-0 de Naples sur Cagliari. En Allemagne, le milieu de terrain malien du RB Leipzig, Amadou Aïdara, a marqué le dernier but lors d'une victoire 6-0 contre le Hertha Berlin. En Espagne, le Marocain Youssef El Nesri a aidé Séville à se hisser à la 3e place de la Liga. en marquant lors d'une victoire 2-0 contre l'Espagnol Barcelone.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Après avoir livré un message fort à l'Assemblée générale des Nations unies, le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a répondu aux questions de la VOA. À New York, notre correspondante Dili Diko s'est entretenue avec lui sur la situation politique et sécuritaire au Mali. Le premier ministre revient ici sur l'affaire Wagner, qui suscite beaucoup d'interrogations de la communauté internationale et nous explique la position du Mali face aux impératifs de la CEDEAO et des partenaires pour la tenue des élections au plus tard en février 2022.
Nous leur répondons que le gouvernement en place fait tout ce qui est possible réellement pour tenir ce calendrier. Mais il faut tenir compte des réalités du terrain. Cette date, elle est impérative, mais les réalités du terrain au Mali décident du délai réel. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ne pas être hors délai. Et pour être beaucoup plus précis, nous avons dit à nos partenaires de la CEDEAO que nous tiendrons en fin octobre les assises nationales de la refondation, à l'issue desquelles nous pourrons décliner toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour aller aux élections. Mais je pense que les partenaires ont ignoré un élément fondamental. Le changement au Mali n'est pas le résultat d'un coup d'État subitement intervenu. Il y a eu des soulèvements populaires pendant des mois, avec des revendications précises qui ont abouti au changement des régimes. Les militaires n'ont fait que parachever en réalité pour éviter le chaos.
Est-ce que le Mali est actuellement en négociation avec la société privée russe Wagner pour le déploiement de ses hommes au Mali?
Le gouvernement du Mali, comme tout gouvernement, a la responsabilité de la sécurité des personnes et des biens dans le pays. Nous avons un pays surarmé aujourd'hui, malheureusement, où le terrorisme ne fait que s'étendre. Qu'est-ce qu'un gouvernement doit faire? Est-ce qu'il doit continuer à observer cette situation, pour parler de façon prosaïque, à continuer à consommer le même médicament, la même ordonnance prescrite pour 2 ans, on est à la 8e année, il n'y a pas de solution. Donc il est obligé de s'interroger s'il est un gouvernement responsable. Et c'est ce que nous faisons. Nous disons que nous allons chercher d'autres partenaires pour renforcer ce qui existe déjà, qui n'est pas exclusif de ce qui viendra. Maintenant, on nous dit de ne pas le faire. Bon, je pense que chaque État défend ses intérêts. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on nous l'interdirait, d'autant plus qu'il n'y a pas de solution. Pour le reste, nous considérons que notre État doit pouvoir coopérer avec tous les partenaires, tous les pays membres des Nations Unies pour faire face aux problèmes auxquels il doit trouver des solutions, la sécurité des personnes et des biens du Mali.
Est-ce que vous pouvez confirmer que le Mali regarde en ce moment vers la Russie pour une aide en matière sécuritaire?
Le Mali regarde aujourd'hui vers tous les partenaires et la Russie n'est pas exclue. Et ça, nous ne le cachons pas. Ce que nous disons seulement, c'est que nous ne gérons pas les rumeurs ni les articles de presse. Le jour où nous allons signer un accord, nous le rendons public et nous n'avons rien à cacher ni à avoir honte de quoi que ce soit.
C'était Choguel Kokala Maïga, le premier ministre du Mali.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Mali entre défis sécuritaires et possible prolongation de la transition. Devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le premier ministre de transition Choguel Maïga a accusé la France d'abandonner le Mali en plein vol sans confirmer ou nier un quelconque accord avec le groupe russe Wagner. Il a aussi évoqué un possible report des élections prévues en février 2022. Comment analyser l'approche sécuritaire des autorités de Bamako? Que risque le Mali avec une transition prolongée? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Tchad, les membres du Conseil national de transition sont connus depuis le week-end. Le chef de la junte militaire, le général Mahamat Idriss Déby, a désigné par décret les 93 membres de cette structure qui jouera le rôle de la future Assemblée nationale. Alors que certaines corporations ne sont pas prises en compte, les femmes, quant à elles, sont représentées à 33%. André Kodbajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Avec 33% de représentativité féminine, nous notons un pourcentage le plus élevé observé depuis 1960 au Tchad.
Amina Priscille Longo, ministre de la Femme, elle qualifie ce quota accordé aux femmes au Conseil national de transition de progression historique.
Nous venons donc de franchir le cap de 30% institué par l'ordonnance 012, pourcentage jamais atteint, ni au gouvernement, ni dans les grandes institutions, moins encore dans le Parlement. C'est une prouesse.
Plusieurs composantes, dont des regroupements des partis politiques ainsi que les corporations de journalistes ne sont pas prises en compte dans la mise en place de cette structure qui jouera le rôle de la future Assemblée nationale.
Ceux qui sont aux commandes aujourd'hui ne veulent pas de débats contradictoires.
Sali Bougarba, membre de la CPDC, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, il dénonce le caractère exclusif du CNT.
On ne coopte que les gens qui sont d'accord pour accompagner ou adhérer aux thèses du CMT. Et donc, de mon point de vue, on peut dire adieu à l'espoir d'une transition inclusive et consensuelle. Et je crains qu'on dise également adieu à une transition apaisée. Adieu également à la résolution 996 du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Les journalistes aussi revendiquent leur place dans le Conseil national de transition. Abbas Mahamoud Tahir est le président de l'Union des journalistes tchadiens.
Les journalistes ne sont pas seulement là pour faire la couverture médiatique, mais ils ont aussi leur point de vue sur la gestion de la chose publique. Donc, les organisations professionnelles des médias prennent acte de cette exclusion des acteurs de médias et en tireront toutes les conséquences qui s'imposent.
Le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits humains et de l'environnement, Abba Daoud Nandjede, joue à l'apaisement.
Nous voudrons avancer. Et s'il faut composer avec toutes les plateformes, les regroupements, ça risque encore de retarder les choses. Et on peut accepter en avançant, en ouvrant les autres, mais pas les communicateurs. Mais si aujourd'hui, dans un regroupement de 93 personnes, et on n'a pas pensé impliquer les communicateurs, moi je pense que ça c'est un manquement grave. C'est pas possible.
Pour la porte-parole adjointe du comité ad hoc, Marie Yondamne, au-delà de l'aspect politique, la sélection a été faite de façon scientifique.
Avec l'expérience que nous avions vécue, nous avons bien voulu rencontrer les représentants des plateformes. Et c'est à eux de repartir à leur base pour donner l'information. Le cas de l'UJT, certainement les autorités verront dans quel cadre l'UJT va continuer à faire son travail pour relayer l'information. Parce que l'UJT est un autre pouvoir à part entière auquel aucun Tchadien ne peut dénier sa force.
La coalition Wakitama trouve inadmissible que le Parlement provisoire, qui devrait être une émanation de la volonté populaire pour mieux contrôler les actions gouvernementales, ne puisse être désigné par le pouvoir exécutif. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La jacinthe d'eau d'Amérique du Sud est une mauvaise herbe envahissante qui engorge les cours d'eau et tue les plantes indigènes. Au Bénin, des entrepreneurs trouvent des moyens innovants de la récolter pour aider à nettoyer l'environnement, comme dans la ville lacustre de Ganvier. Un reportage d'Anne Nzuanke, relaté par Nathalie Barge.
Avec ses quelques 20 000 habitants, Ganvier est la plus grande ville lacustre d'Afrique de l'Ouest. Mais l'invasion de la jacinthe d'eau a fait de la vie sur le lac une lutte pour la navigation et la pêche. Pour faire face au problème, les autorités locales forment les femmes à récolter cette plante qui est transformée en œuvre d'art et en compost. Dominique Fezoun, de la commune de Soava.
Ça fait un plus-value. C'est une activité générative de revenus. Pour ces groupements, au moins hier, on dit toblé. C'est-à-dire que la jacinthe était mauvaise. Aujourd'hui, c'est transformé en toyon. La jacinthe est devenue bienfaitrice.
Dans son travail de mécanicien, Dieudonné Sewale laisse de petites traînées noires qui polluent l'environnement. Mais depuis 2 ans, il utilise une fibre à base de jacinthe qui absorbe les déchets pétroliers afin qu'ils puissent être balayés et éliminés.
Le nettoyage est tellement propre et on a la facilité de faire disparaître les hydrocarbures sur le sol parce qu'avant, on n'utilisait que le sable. Et après, ce n'est pas propre du tout. Et le recyclage du sable n'est pas aussi possible qu'il n'est même pas conseillé.
La start-up béninoise Greenkeeper Africa fabrique de la fibre pour réduire à la fois le problème de la jacinthe et la pollution par les hydrocarbures. Le fondateur Fola Mouftaou affirme qu'un kilo de fibre de jacinthe peut absorber jusqu'à 12 kilos d'huile.
La jacinthe est collectée, transformée, conditionnée, vendue aux clients et elle revient en fait après utilisation pour être incinérée. Et donc c'est la première vraiment solution purement africaine qui permet de gérer comme ça de manière intégrée à la fois un problème environnemental et un problème industriel de manière durable.
Les autorités locales élargissent l'utilisation de la plante avec un gel d'éthanol à base de jacinthe qui peut être utilisé pour la cuisson du combustible au lieu de brûler du bois. Elles espèrent que les différentes innovations transformeront ce ravageur envahissant en outils utiles afin de protéger leur ville lacustre unique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les législateurs américains sont appelés cette semaine à se prononcer sur un important projet d'infrastructure de 1 000 milliards de dollars pour la démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. C'est une période intense qui s'annonce, d'autant que les parlementaires devront également examiner l'autre vaste projet de dépenses sociales de 3 500 milliards de dollars soutenu par les démocrates, un projet crucial pour l'administration Biden. Le point avec Michel Quinn, le récit est de Jacques Aristide.
Le vote prévu à la Chambre des représentants est vu comme un test majeur pour le programme du président Joe Biden à l'échelle nationale. Les dirigeants du Congrès tentent de fixer la date à laquelle va être soumis au vote le plan d'infrastructure qui prévoit d'augmenter les dépenses, notamment pour les routes et les ponts. Des élus de l'aile gauche du Parti démocrate affirment qu'ils ne voteront pas pour ce projet de l'ordre de 1 000 milliards de dollars, à moins que le vaste programme de dépenses sociales de 3 500 milliards de dollars, projet baptisé Build Back Better par le président Biden, ne soit également soumis au vote. D'après la présidente de la Chambre, le projet le moins coûteux sera probablement examiné en premier. Quant à l'autre, avec son montant colossal, il pourrait être revu à la baisse au fur et à mesure des négociations, ajoute Nancy Pelosi. Elle était l'invitée de l'émission This Week de la chaîne ABC.
Il ne s'agit pas d'un bras de fer entre modérés et progressistes. De manière écrasante, l'ensemble de nos élus démocrates, à l'exception de quelques-uns dont je respecte le jugement, soutient la vision de Joe Biden et nous parviendrons à faire avancer les choses cette semaine.
Un autre problème se profile toutefois à l'horizon. Le gouvernement pourrait se retrouver en manque d'argent à la mi-octobre, selon un récent rapport. Le Congrès devra alors augmenter la limite de la dette afin qu'il puisse emprunter de l'argent pour payer un large éventail de dépenses déjà approuvées, y compris l'armée et la sécurité sociale. La semaine dernière, le républicain Mitch McConnell, chef de la minorité au Sénat, a déclaré que les élus de son camp n'aideraient pas les démocrates à relever le plafond de la dette. Les démocrates, dit-il, devraient l'adopter eux-mêmes car ils sont sur le point de voter le projet de loi de 3 500 milliards de dollars, un projet que rejettent de nombreux républicains.
Ne jouez pas à la roulette russe avec notre économie. Assumez vos responsabilités et augmentez le plafond de la dette pour couvrir tout ce dans quoi vous vous êtes engagé tout au long de l'année.
Mais l'enjeu est monumental. Une fermeture partielle du gouvernement pourrait intervenir plus tard cette semaine si le Congrès n'adopte pas de loi sur les dépenses. Le Sénat devrait ensuite examiner un projet de loi qui a été adopté par la Chambre, lequel étendrait les limites des dépenses, augmenterait la dette et fournirait une aide aux communautés touchées par des catastrophes naturelles, de même qu'aux réfugiés afghans.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Les infos à Washington.